La rentrée scolaire approche, les vacances ne sont plus que des beaux souvenirs de sable fin, de soleil, de crème solaire et j'espère de belles lectures. Excellente soirée à toutes et à tous et merci d'avoir retenu ce nouveau numéro de votre émission littéraire. C'est ce soir le 171e numéro de Wagon Livre. Vous le savez, c'est la rentrée littéraire, traditionnelle rentrée littéraire avec cette année plus de 600 romans qui vous attendent en librairie. Notre rendez-vous de ce soir, lui, va rendre compte de la troisième fête du livre de Saint-Florentin, qui a eu lieu le 7 juin dernier, une manifestation organisée par les bénévoles des après-midi de Saint-Flo que préside Philippe Lebouc, que nous saluons d'ailleurs très chaleureusement, ainsi que son épouse Sophie. Alors au programme de notre wagon livre, des interviews des auteurs présents à cette fête de Saint-Florentin, il y sera question de la rencontre entre le maréchal Pétain et Göring en gare de Virginie-Saint-Florentin le 1er décembre 1941 grâce aux explications de l'historien François Genrot. Nous en saurons un peu plus sur l'ordre des Templiers en Bourgogne grâce aux explications du docteur en archéologie Michel Miguet qui fait paraître un nouvel ouvrage donc consacré aux Templiers en Bourgogne aux éditions de l'Armançon. Nous avons tendu notre micro à Barbara Fouquin, professeure des écoles à Rouvray, une professeure des écoles qui propose des livres d'histoire pour les enfants des écoles primaires. C'est à découvrir, c'est ce soir dans Wagon Livre. Je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Nous entendrons Didier Bétron de Saudre pour un ouvrage historico-romanesque intitulé « Lui, le roman de sa vie ». Et puis nous entendrons aussi Daniel Chambon qui a retracé le parcours de son grand-père qui a quitté la Russie tsariste pour venir s'installer en France en honorant ainsi sa mémoire dans un ouvrage intitulé « Monsieur Léon Juif russe 1882-1928 » et c'est disponible aux éditions de Paris. Il est venu d'Autun jusqu'à Saint-Florentin pour présenter son dernier roman, c'est Bernard Moreau-Gaudry, prix littéraire du Morvan 2012, qui effectivement nous présentera l'intrigue de son polar intitulé « Un désir de vengeance ». Voilà le menu de Wagon Livre ce soir, départ dans quelques secondes. Avant d'entendre Rémi Couvignou pour nous présenter les nouveautés de la Gazette 89 édition, d'abord place à Gisèle Meunier-Piquet, auteure d'un roman intitulé « Qui a tiré sur la haute couture ?» Rendez-vous tout de suite avec le suspense, le frisson, tout de suite, Gisèle Meunier-Piquet.
Eh bien, j'ai voulu parler essentiellement d'un fait divers qui avait eu lieu il y a une vingtaine d'années aux États-Unis lors de l'assassinat d'un grand couturier italien. Ce personnage m'avait beaucoup intéressée, je le trouvais très sympathique et je voulais m'essayer aussi au roman policier, ce que je n'avais encore pas fait jusque-là. Donc j'ai gardé le milieu de la haute couture, le milieu du luxe, mais j'ai construit une histoire policière, une enquête qui n'a rien à voir avec la réelle. C'est pourquoi je parle vraiment d'un roman qui est tout à fait imaginé, quoi. Que j'ai situé au départ à New York, mais aussi où on va à Miami, on va à Cuba, puisque je voyage beaucoup et que j'aime bien parler de certains endroits dans lesquels j'ai voyagé lorsque j'écris des romans ou des nouvelles.
Donc pour frissonner et également pour se faire plaisir.
Pour me faire plaisir, mais faire plaisir aussi aux lecteurs et puis les faire voyager. Mais je suis quand même, j'ai voulu rester dans le monde de la réalité en montrant la complexité des personnages. Puisqu'on baigne dans le milieu du luxe, des paillettes, le milieu de l'homosexualité. Un milieu que je ne connaissais pas vraiment, où je n'avais pas de témoignages. Le domaine aussi de la perversité humaine par rapport à la jalousie, par rapport à la passion que certaines personnes peuvent avoir, pas dans un univers amoureux, mais passionnel pour une star, ou là en l'occurrence ce grand couturier qui a qui a des fans un peu partout et qui le suivent même en dehors des frontières, quoi.
Et c'est donc qui a tiré sur la haute couture, c'est aux éditions du Bout de la Rue, et c'est sous la plume de Gisèle Meunier-Piquet. On trouve vos romans facilement?
On le trouve, oui, on peut me contacter directement par le biais de mon site internet, en tapant Gisèle Meunier. Et puis on peut le trouver aussi chez l'éditeur, édition du Bout de la Rue.
Merci à vous. Alors, La Gazette 89 édition, une maison d'édition bourguignonne de surcroît et surtout iconaise, avec notre ami Rémi Couvignou, que l'on connaît un peu dans Wagon Livre. Bonjour Rémi.
Bonjour.
On se retrouve à Saint-Florentin. Alors bien sûr, les traditionnelles collections de La Gazette 89 édition, alors on en a retenu deux. Bon, actualité oblige, autour du centenaire du début de la guerre de 14-18, votre roman Le Poilu de l'hôpital de Sens, on a eu l'occasion d'en parler l'an dernier longuement dans Wagon Livre. Là, on est à l'hôpital militaire temporaire numéro 31 de Sens, Rémi, parce que finalement, la ville de Sens n'était pas très loin du front et a été un carrefour stratégique.
Effectivement, la ville de Sens était située à un carrefour de lignes de transport, le train, le Lyon et les routes, et en emportant de Sens, on faisait partir le matériel pour le front, c'est-à-dire les munitions, l'alimentation des soldats, et on faisait revenir les blessés qui étaient triés à Sens dans les 8 à 12 hôpitaux militaires qu'il y a eu à Sens pendant la guerre. Certains ont ouvert, certains ont été refermés, et donc qui était une plateforme très importante du service de santé des armées.
Alors, intrigue autour de ce capitaine Charles Montperrou, blessé, qui se trouve donc dans cet hôpital temporaire et qui fait la connaissance d'une belle infirmière, Alice Cantian. Et puis, il y a un autre soldat, c'est Gervais Couesque. Bien sûr, Rémi, vous rappelez avec ce roman les souffrances endurées par les combattants, les gueules cassées, l'atrocité de cette grande boucherie de la guerre de 14-18, ne l'oublions pas.
Absolument. Et j'ai mis dans ce roman quelques petits éléments. Mes deux grands-pères ont fait la Première Guerre mondiale, et donc j'avais quelques minimes anecdotes parce qu'ils n'aimaient pas en parler. Mais j'ai pu rajouter ces deux ou trois petits éléments vécus par mes grands-parents, par mes grands-pères, dans ce petit roman où j'essaye d'avoir une démarche pédagogique quant à la Première Guerre mondiale et ne pas oublier la gloire, mais ne pas oublier l'horreur non plus.
Et c'est un roman passionnant, on en a parlé dans Wagon Livre, c'est Le Poilu de l'hôpital de Sens, sous la plume de Rémi Couvignou, c'est aux éditions La Gazette 89 édition, et là aussi, il y a un site très facile.
Il y a un site, La Gazette 89 édition, et on les trouve facilement dans les librairies du département.
Alors Jean-Luc Dauphin est le président de l'association des Amis du Vieux Villeneuve.
Exactement.
On l'avait rencontré l'an dernier au Salon du Livre de Migennes. Là, il n'est pas à Saint-Florentin aujourd'hui. Et il fait paraître une Anglaise, non pas à bicyclette, pour paraphraser le roman de Didier Decoin, mais c'est une Anglaise à Joigny. Et on est au début du 19e siècle.
Effectivement, puisque Jean-Luc Dauphin a inauguré ses collections de petits romans historiques basés sur des éléments réel de l'histoire du département, et en accord avec les Amis du Vieux Villeneuve, nous faisons deux collections parallèles que nous commercialisons de manière croisée. Je vends les siens, il vend les miens. Et j'ai aujourd'hui donc son dernier roman qui est sorti il y a quelques jours et qui se passe à Joigny, et une personnalité, Madame Fanny Burney, qui est une célèbre romancière anglaise qui vivait au début du 19e, a effectivement habité à Joigny. Et sur ce thème, Jean-Luc écrit un roman construit d'une manière un petit peu particulière, puisqu'il s'agit d'une correspondance de Fanny avec son père, avec sa meilleure amie, par laquelle il nous décrit vraiment la vie à Joigny en 1802, à l'époque où Bonaparte était encore Bonaparte.
Rémi Couvignou, à l'instant à notre micro. Si vous êtes intéressé par les publications de la maison d'édition de Rémi Couvignou, une maison d'édition spécialisée dans la publication d'ouvrages et de brochures consacrées à l'histoire et au patrimoine du département de l'Yonne, eh bien vous pianotez via internet www.lagazette89.fr, avec en plus en ce moment sur le site de cette maison d'édition une promo vacances valable jusqu'au 8 septembre prochain. Alors ne tardez pas. Premier intermède en musique à bord de Wagon Livre, tout de suite Frérot de la Vega, Sweet Darling, excellente soirée sur Radio.
J'ai vu la fin souvent, j'ai vu les portes se fermer, tant j'ai de mal à te cerner.
Ta mélancolie en ces dimanches passés affalés.
J'ai vu des tonnes de paires de jambes à l'envers. Crois-moi, je te jure, c'est les tiennes que je préfère. Wow, oh, oh. Oh my sweet darling.
T'étais détestable de rester agréable. Et j'étais sûr que j'étais
doux. Et j'étais tout sauf ça.
J'ai cru que ce serait facile du côté tactile. Grâce à toi j'ai compris le sens du mot
touride. Et juste pour ça. Oh my sweet darling, no.
Première fois des hauts, des bas, et tant des bas sur des gens comme moi.
Attention à toi, car tes fesses, moi, je m'en lasse pas.
Oh my sweet darling, no.
Du compte-rendu de la troisième fête du livre de Saint-Florentin, vous êtes à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. La fête du livre de Saint-Florentin, c'était le 7 juin dernier, sous un soleil magnifique, et nous avons eu le plaisir de rencontrer Michel Miguet, docteur en archéologie qui a beaucoup travaillé sur l'ordre du Temple. La Bourgogne est assurément une terre templière. Comme toutes les provinces d'Occident, elle a servi de base arrière et financière aux Templiers, dont la petite armée permanente qu'ils entretenaient sur place contribuait activement à la protection des lieux saints. On trouve encore, dans les quatre départements de la Bourgogne, d'importants vestiges templiers, commanderies, chapelles, logis et bâtiments de ferme. Les Templiers et leur maison en Bourgogne, c'est le titre du dernier essai de Michel Miguet, disponible aux éditions de l'Armançon. Tout de suite, petite leçon d'histoire au cours duquel Michel Miguet nous explique ce qu'est l'ordre des Templiers.
C'est le premier des ordres à la fois religieux et militaires, l'ordre du Temple. Il doit son existence à la prise de Jérusalem et la première croisade, prise de Jérusalem en 1099, et de pieux chevaliers qui ont participé, ou pas d'ailleurs, à la prise de Jérusalem, se rassemblent pour protéger les pèlerins qui font la route entre les ports de débarquement, comme Jaffa, jusqu'à Jérusalem. Cette petite armée templière a besoin, évidemment, de beaucoup de chevaux, d'hommes, d'armes, etc. Et ça va être le rôle des maisons européennes de fournir les fonds pour entretenir cette petite armée templière qui combat en Orient.
Alors, la thèse de votre livre, c'est de rappeler que la Bourgogne est une région hautement templière, et vous avez donc recensé dans les quatre départements des vestiges ou y a-t-il des bâtiments, j'allais dire, parfaitement conservés?
Bien sûr, il y a au moins deux établissements qui sont très bien conservés, enfin les chapelles de ces établissements. Le premier, c'est un emploi qui s'appelle Saint-Marc, à côté de Nuits-sous-Ravière, à proximité immédiate de Nuits-sous-Ravière, au bord de l'Armançon. Et le second, c'est le Sauce d'Ilan, donc sur la commune d'Ilan, entre Pont-Aubert et Vézelay.
Voilà, absolument.
Voilà. Alors, ce sont deux édifices tout à fait remarquables, l'un de la fin du XIIe siècle et l'autre, le second, de la fin du XIIIe.
Alors, je vois Marche-Soif, ça me fait penser, on est du côté du Tonnerrois, là, il y a un
tout
domaine de Marche-Soif.
Tout à fait. Encore. Alors, il existe à proximité de Tonnerre, encore sur la commune et sur la route d'Irouère, un établissement du temple dont il ne subsiste que de l'époque que la chapelle. Les autres bâtiments ont été reconstruits au XVIIIe siècle.
Alors la quatrième de couverture précise, s'appuyant sur les dépositions des Templiers lors de leur procès, Michel Miguet évoque la carrière et la vie dans les commanderies à la charnière des XIIIe et XIVe siècles de quelques personnages emblématiques de la Bourgogne. Et c'est donc les Templiers et leur maison en Bourgogne. Michel Miguet, docteur en archéologie, et c'est aux éditions de l'Armançon. Merci Michel.
Merci
Miguet.
À vous.
Alors cette fois-ci, je tourne mon micro vers un auteur que j'apprécie, un Autunois qu'on connaît bien dans Wagon Livre depuis qu'il est passé dans l'émission. Bonjour Bernard Moreau-Gaudry. Donc Bernard Moreau-Gaudry, Le tout dernier né, c'est un roman à suspense qui a pour titre Un désir de vengeance et qui est sorti ce printemps, là,
oui,
mars-avril,
oui,
enfin au moment du sort du livre d'automne,
voilà,
hein, mois d'avril dernier.
Oui, mois d'avril.
Alors Bernard, de quoi s'agit-il?
Alors, c'est un roman, donc c'est une histoire d'un désir de vengeance. En fait, c'est deux soldats du contingent qui ont fait la guerre d'Algérie et qui ont eu des problèmes avec l'OAS. Donc c'est une histoire qui est assez peu traitée jusqu'à présent. Et ils ont souffert dans leur chair, dans leur esprit en Algérie. Et ils retrouvent par hasard, en plein Morvan, leur tortionnaire, enfin l'homme qu'ils estiment responsable de leur malheur. Voilà. Alors ils le croisent par hasard, ils vont essayer de le retrouver. Il y a une traque qui se déroule à ce moment-là à travers le Morvan.
Voilà. Alors Bernard Moreau-Gaudry, la quatrième de couverture, dit à travers les sentiers mystérieux du Morvan sauvage, dans les étranges forêts sacrées du site gaulois de Bibracte, dans les ruelles tortueuses autour de la cathédrale d'Autun, se poursuivent les péripéties d'une traque aveugle.
Aveugle, oui, parce que. Et en même temps, bon, c'est un roman sur l'amitié. Ces deux hommes se soutiennent. Il y en a un qui a perdu une jambe en sautant sur une mine. Et ils travaillent ensemble. Ce sont deux artistes. Ils vivent en restaurant d'anciennes fermes abandonnées qu'ils transforment et qu'ils revendent avec une plus-value. Voilà.
Alors on rappellera, Bernard, que vous avez obtenu le prix littéraire du Morvan en 2012 pour La Tentation d'Ève, hein, un superbe roman médiéval. J'en garde encore d'ailleurs de très beaux souvenirs.
Ah, très aimable.
Alors un livre chaque année, Bernard ?
Un livre chaque année, oui. Oui, parfois deux, parce que ça c'est des romans, mais en même temps je sors des livres techniques sur la sculpture, voilà.
Un désir de vengeance, c'est le dernier roman de Bernard Moreau-Gaudry. Et là aussi, Bernard, pour se procurer vos livres dans Lyon, on passe par son libraire ?
On peut passer par son libraire, oui, bien sûr. Oui, à Auxerre, à Avallon, enfin oui, il est diffusé à travers toute la Bourgogne.
Bernard Moreau-Gaudry, à l'instant, à notre micro, c'était à Saint-Florentin le 7 juin dernier. En ce qui concerne les ouvrages techniques qu'a publié Bernard Moreau-Gaudry, mentionnons Patrimoine industriel avec des photographies de Daniel Thévenin, un très bel ouvrage paru en 2013. Signalons aussi toujours de Bernard Moreau-Gaudry, Sculpteurs et plasticiens du 21e siècle. C'est un très bel ouvrage également. Je rappelle que Bernard Moreau-Gaudry est écrivain, sculpteur et il est actuellement le président de l'Union des syndicats et organisations professionnelles des arts visuels. Avant la pause, une information. Dimanche 7 septembre prochain se tiendra le Salon du Livre de Saint-André en Morvan. C'est à 15 minutes à peu près au sud d'Avallon, avec cette année deux invités d'honneur, le journaliste et homme de radio Guy Carrier et le photographe Laurent Janin. Et puis rappelons aussi, cette fois-ci c'est à Vézelay, Durant le week-end des 5, 6 et 7 septembre prochains se tiendra donc le premier grand rendez-vous de RVLE. RVLE, cela veut dire les rendez-vous du lire et de l'écrire, avec des dédicaces, des tables rondes, des rencontres entre lecteurs, auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires. C'est à Vézelay, donc les 5, 6, 7 septembre, tout le programme détaillé en pianotant. Les rendez-vous du lire et de l'écrire à partir d'un moteur de recherche. Et puis la soirée d'ouverture de RVLE aura lieu à 18h à la maison Jules Roy, avec la présentation d'une maison d'écrivains et surtout avec l'accueil de Jean-Paul Didier Laurent, auteur du Le Liseur de 6h27, disponible au Diable Vauvert. Disponible tout de suite sur Radion, la pause musicale. Tout de suite, Capital Cities, One Minute More. Bonne soirée, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite du compte-rendu de la troisième fête du livre de Saint-Florentin.
Le top de la pop au cœur de la Bourgogne.
Excellente soirée sur votre radio locale. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous écoutez Wagon Livre, la seule heure littéraire sur les ondes en Bourgogne depuis novembre 2010. Ce soir, nous vous proposons un compte-rendu de la troisième édition de la fête du livre de Saint-Florentin et nous poursuivons notre émission avec l'évocation d'un événement historique local méconnu. Il s'agit de l'entrevue entre le maréchal Pétain, chef de l'État français, et le Reichsmarschall Göring, le 1er décembre 1941, en gare de Saint-Florentin, Virginie. En fait, la SAHVCB, la Société archéologique et historique des vallées du Créanton et de la Brumance, l'ARORI, l'Association pour la recherche sur l'occupation et la résistance dans l'Yonne, ainsi que l'Association pour le souvenir du combattant de Chanlo, avaient organisé un colloque sur cette entrevue Pétain-Göring en décembre 2011 à la salle des fêtes de Virginie. Les actes du colloque sont désormais publiés, rassemblant toutes les interventions des historiens et des documents iconographiques. Alors, j'ai demandé à Saint-Florentin, à l'historien François Genreau, de nous expliquer pourquoi cette entrevue Pétain-Göring avait eu lieu en gare de Saint-Florentin-Virginie le 1er décembre 1941.
La collaboration est initiée à Montoire en octobre 40. Donc Montoire, il ne se passe pas grand-chose, sinon qu'on prononce le mot collaboration et que Pétain serre la main à Hitler. Et finalement, Laval, et c'était Pierre Laval qui avait préparé Montoire, Pierre Laval est mis sur la touche le 13 décembre 40, il est remplacé par quelqu'un de notre région, c'est Flandin. Étienne Flandin, hein, bon, des députés d'Avalon, si mes souvenirs sont bons.
Et qui sera d'ailleurs condamné à l'indignité nationale, ouais, à la libération.
Voilà. Et donc Flandin, lui, il ne fait que passer, puisque en avril 41, il est remplacé par l'amiral Darlan. Alors Darlan, c'est quelqu'un qui va loin dans la collaboration, hein, et il a comme conseiller diplomatique un collaborateur très, très fort au niveau de la collaboration, c'est Benoît Méchain. Et donc Benoît Méchain, lui, il rencontre Hitler, etc. Benoît Méchain, il parle allemand couramment, il parle anglais. Enfin, c'est un type extraordinairement intelligent, mais très collaborateur. Et donc, c'est le conseiller diplomatique. Et là, on va arriver au protocole de Paris. Alors, le protocole de Paris, qu'est-ce que c'est ? C'est un accord avec les Allemands, hein, des protocoles, pour aider les Allemands dans leur lutte contre les Anglais. En Syrie, la Syrie est sous protectorat français, hein, et donc ils nous demandent des bases aériennes en Syrie pour permettre à leurs avions qui sont à Malte de se poser et d'attaquer l'Irak où les Anglais veulent tenir les champs pétrolifères de l'Irak. Bon. En fait, il y a sur la Syrie, et puis il y a le port de Bizerte, c'est un port français en Tunisie, et là, les Allemands ont besoin de Bizerte pour décharger du matériel militaire et du ravitaillement pour les troupes de Rommel qui commencent à être en difficulté en Libye. Donc voilà. Et Pétain s'aperçoit que Darlan, sur les conseils de Benoît Méchain, va trop loin dans la collaboration. Et là, Pétain, c'est toujours Pétain, il fait un double jeu. Un coup, il va un petit peu vers les Anglais, les Américains, un autre coup, il va... Et donc là, Pétain joue Végan, qui lui refuse les accords de Paris, les protocoles de Paris, contre Darlan. Et finalement, Végan arrive à convaincre Darlan et les accords ne sont pas ratifiés, quoi. Donc, dès l'été 1941, tout l'été 1941 jusqu'à l'automne, il n'y a quasiment plus de relations diplomatiques entre la France et le Troisième Reich. Et puis Pétain veut relancer quand même cette collaboration, il en a besoin, bon, d'autant plus que la France est de plus en plus étranglée, que tout ce qu'on avait demandé dans l'armistice n'est pas respecté par les Allemands, et la France est étranglée dans tous les domaines, quoi. Donc Pétain demande une entrevue avec un haut dignitaire allemand. Donc les Allemands, Ribbentrop n'est pas très chaud, Hitler, et finalement ils envoient Göring, ils vont dire ça va être Göring, ça sera un rapport entre deux soldats, deux maréchaux, etc. Bon. Et pour cette entrevue, qu'on ne sait pas encore si c'est un Florentin, pour cette entrevue, les Allemands demandent la tête de Végan, qui avait fait échouer le protocole de Paris. Ils obtiennent sa tête le 20 novembre. 41, donc le 20 novembre, 1er décembre, c'est rapide, hein. Dès qu'ils ont obtenu la tête de Végan, hop, il y a cette entrevue qui est mise sur pied, quoi, à Saint-Florentin. Alors pourquoi Saint-Florentin ? Bon, Saint-Florentin, bon, il n'y a pas de tunnel comme à Montoire, en revanche, Saint-Florentin, c'est pas très loin, comme dit Göring, de la ligne de démarcation, donc on ne va pas fatiguer le maréchal, et puis lui, ça l'arrange, parce que quand il va à Paris, il va passer par Troyes, la ligne, la petite ligne 3 Saint-Florentin. Saint-Florentin, il va se garer à la gare de Saint-Florentin et ensuite il va remonter sur Paris. Voilà. Donc Pétain, on se met d'accord sur cette entrevue de Saint-Florentin. En revanche, on ne se met pas d'accord sur ce dont on va discuter. Quoi. Donc Pétain, lui, va partir de Vichy par le train. Il va coucher en cours de route et il va repartir à la limite de la ligne de démarcation à 6h du matin pour arriver à Coulanges-sur-Yonne vers 10h30, un truc comme ça. Là, l'attend à Coulanges-sur-Yonne, l'attend Debrinon. Le général Annès, je crois, qui est représentant de la Luftwaffe en France pour Göring, et le préfet Grégoire, ça va être préfet Grégoire, donc
il sera fusillé,
dont on parle encore, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et ils vont venir à Saint-Florentin en voiture. Et donc, pour la petite histoire, mais ça je sais pas, on ne sait pas si c'est vrai. Ça c'est ce que dit comment Bailly dans son histoire sur la croix de Saint-André. Il dit que Pétain a refusé de passer devant la statue de Paul Bert parce que c'est l'école laïque. Donc ils arrivent à Saint-Florentin à 13h. Et Göring est arrivé à 12h45. Alors il accueille Pétain, il y a une fanfare, elle ne joue pas. Bon, il y a un service d'ordre alors extraordinaire hein, partout, depuis Migennes jusqu'à Saint-Florentin, en amont, en aval de Saint-Florentin. Bon, il y a un très gros service d'ordre. Les gens ne savent pas ce qui se passe, hein. Personne ne sait. Hein. Et donc Göring est sur le perron de la gare de Saint-Florentin, il descend et il accueille Pétain. Quoi. Ensuite, après l'accueil, bon, c'est Schmitt, l'interprète d'Hitler, qui fait des traductions. Hein. Et ils vont maintenant aller au train, dans le train de Göring. Alors c'est pas son train blindé, mais c'est quand même un train luxueux, mais quand même très bien défendu hein, militairement. Et donc ils vont commencer à discuter. Alors au départ, on sent que ça après les trucs informels de départ, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc Pétain fait venir Darlan. Darlan vient avec un mémorandum. Et le mémorandum, c'est l'État de la France en 1941, qu'on publie intégralement le livre et que peu de gens connaissent. Et Pétain dit, ben voilà, moi, je veux bien collaborer. Mais voilà, il y a tout ça, remettre à jour les prisonniers à libérer, la ligne de démarcation, les réquisitions trop fortes, etc. etc. Ouais. Donc finalement, Göring est fort en colère. Alors il dit à Pétain, mais je ne suis pas venu à Saint-Florentin pour faire un échange de petits papiers, etc. Alors Pétain veut que ce mémorandum monte à Hitler. Bon, il refuse et puis finalement ça repartira donc en Allemagne. Et finalement, c'est un échec parce que bon, on n'obtient rien et les Allemands n'obtiennent pas grand-chose. Quoi. Donc voilà. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on va dire ? Alors Göring, lui, il sait que c'est un échec. Il repart à Paris fort mécontent. Il tient une réception à Paris le soir. Il n'y a pas un Français quasiment qui est là. Il doit y avoir que, je pense, Laval est invité. Mais peut-être bien Benoît Méchain, mais ça doit être tout. Quoi. Le reste, et il dit que c'est un échec. Alors, les Français, eux, ils ne vont pas dire que c'est un échec parce que la presse dit que c'est pas si mal. Quoi. Mais finalement, il va naître à Saint-Florentin ce que Marc Ferraud appelle dans son bouquin sur Pétain, la légende rose de l'entrevue de Saint-Florentin. Or, c'est un petit texte de 3 pages que j'ai eu. Que mes amis ont acheté là. Et donc ce texte, on le datait, on disait oh, c'est fin décembre, c'est janvier, bon, c'est la légende rose. Mais en fait, on n'avait pas confirmation. Là, à Saint-Florentin, là, on a retrouvé une légende rose qui a été recopiée à la main, au crayon de papier, et avec la date. Donc c'est 12 décembre 41. Donc c'est la première fois qu'on a une légende rose datée. Et comme elle est recopiée, on peut dire même. Donc c'est un truc qui s'est fait très rapidement, quoi, très rapidement. Alors dans cette légende, Pétain passe pour un fin négociateur, etc. Donc, et donc il va très loin. Bon, et Göring, de temps en temps, il le dit, il le rappelle à l'ordre, etc. Voilà, l'entrevue de Saint-Florentin, c'est ça. Hein, et je pense que Frédéric Gand, et puis si on se rend compte, on ira plus sur le fond.
François Genrot, à notre micro, nous aurons vraisemblablement l'occasion de revenir avec lui sur cette entrevue Pétain-Göring en fin d'année à l'occasion d'un numéro spécial de Wagon Livre. Petite information concernant les apéros de notre librairie partenaire, la librairie L'Autre Monde à Avallon. Sachez que nous enregistrerons en public un nouveau numéro de votre émission littéraire vendredi 12 septembre à 18h30 avec Daniel Chambon, qui a retracé le parcours de son grand-père juif qui tourna le dos à la Russie tsariste où il était né pour s'exiler en France. Le livre a pour titre « Monsieur Léon, juif russe, 1882-1928 », un ouvrage disponible aux éditions de Paris. C'est donc un rendez-vous et un enregistrement qui aura lieu en public à la librairie L'Autre Monde, 42 Grande Rue à Avallon, le vendredi 12 septembre à 18h30. Place à la musique et à la chanson, voici Lilywood on the Prick and Robin Schulz, Prayer in Sea. Bonne soirée sur Radion, on se retrouve dans quelques minutes, toujours à bord de Wagon Livre.
De la pop sur Radion.
Merci de nous rester fidèles. Vous écoutez Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous vous proposons ce soir, mercredi 27 août, le compte-rendu de la fête du livre de Saint-Florentin. C'était le 7 juin dernier, une manifestation qui en est à sa troisième édition, organisée par les bénévoles des après-midi de Saint-Flo que préside Philippe Lebouc. Dernier reportage, avant de nous quitter, nous allons donner d'abord la parole à Didier Bétron de Saudre, auteur de « Lui, le roman de sa vie » aux éditions Télès, un ouvrage historico-romanesque. C'est en tout cas dans quelques minutes. Mais d'abord, partons à la rencontre d'un professeur des écoles et passionné d'écriture qui signe de beaux ouvrages pour le jeune public, des livres qui rendent l'histoire plus attrayante. Elle s'appelle Barbara Fouquin et en cette année du centenaire du début de la Grande Guerre, elle signe un roman épistolaire inspiré de l'authentique correspondance d'un couple d'instituteurs iconés durant la guerre de 14-18. Faisons sans plus tarder connaissance avec Barbara Fouquin.
Je suis professeure des écoles dans une toute petite école de Bourgogne, à Rouvray. Il y a une seule classe et j'ai des CM1, CM2. Et je suis moi-même habitante de Pontigny.
Alors passionnée donc de transmission des savoirs, passionnée d'histoire, passionnée d'écriture. Alors il y a l'aventure au bout de l'école. Alors c'est une série, il y a deux ouvrages pour l'instant, avec chacun composé d'histoires, et qui sont des histoires qui plongent les enfants dans l'histoire, dans leur histoire finalement, celle de leurs ancêtres, de nos ancêtres, et l'histoire de la France.
Exactement, c'est un outil que j'ai moi-même préparé pour justement aider les enfants à rentrer dans l'histoire différemment que par les manuels scolaires. Donc le premier tome, nous avions travaillé sur la Première Guerre mondiale. En ouverture, j'avais préféré utiliser la femme durant la Grande Guerre et non pas le soldat. Et j'ai découvert cette jeune résistante de la Première Guerre mondiale, qui est Angèle Leca, qui habitait Rumgy, un petit village du nord de la France, et qui détenait quelques pigeons voyageurs pour faire passer quelques informations. Et à l'époque, c'était puni et on se faisait assassiner. Donc elle s'est fait assassiner peu avant la fin de la Grande Guerre pour détention d'un pigeon voyageur.
Donc en fait le livre c'est l'aventure au bout de l'école, alors un premier épisode consacré donc à Angèle Leca, résistante de la Grande Guerre. Le deuxième épisode revient sur la reddition de Vercingétorix à Alésia. Et puis alors Barbara Fouquin, autre ouvrage qui retient mon attention en cette année 2014, qui est l'année du centenaire du début de la Première Guerre mondiale, c'est l'adaptation finalement pour le jeune public de la correspondance des grands-parents de Michel Mauny que nous avions reçu dans Wagon Livre il y a quelques années déjà. Alors Michel Mauny habite à Migennes et il a retrouvé la correspondance entre son grand-père qui était combattant pendant la guerre de 14-18 et sa grand-mère qui était institutrice dans le petit village de Courlon d'ailleurs. Et ça donne Émile, Léa et Roger, 4 ans de guerre, 4 ans de correspondance, donc sous la plume de Barbara Fouquin aux éditions M. Alors, comment fait-on pour s'approprier cette correspondance si touchante entre ce couple séparé par cette grande guerre ?
Eh bien, en fait, j'ai été moi-même touchée par Michel, car elle est venue dans ma classe faire une petite conférence à mes élèves. J'ai lu son livre, qui est maintenant réimprimé par l'association Adiamos, je tiens quand même à le préciser. Et Michel m'a gentiment accordé le fait de romancer. Enfin, c'est un roman épistolaire, et m'a permis, avec une préface dans le livre, de d'écrire tout simplement, mais du début jusqu'à la fin, pour que les élèves, les enfants à partir de 10 ans, puissent entrer dans cette guerre qui est très très dure, mais pas du côté guerrier, vraiment avec beaucoup de sentiments partagés. Et je tiens à rectifier quelque chose, c'est que Émile était aussi instituteur. Et sa femme a repris la classe de son mari durant cette période.
Effectivement, la quatrième de couverture précise la peur, l'amour, l'éducation, la colère, le patriotisme, le courage. Tout est passé en revue et nous emmène avec pudeur dans les méandres boueux des tranchées. C'est Émile, Léa et Roger, 4 ans de guerre, 4 ans de correspondance, Barbara Fouquin. Comment fait-on pour se procurer vos ouvrages ?
Eh bien, j'ai un site au nom de Barbara Fouquin, tout simplement. Dans Google, vous tapez. Sinon, mes livres sont en vente chez Cultura à Auxerre.
Merci Barbara. Alors puisqu'on parlait justement de grands-parents, des grands-parents de Michel Mauny, ben je vais me tourner du côté de Daniel Chambon. Bonjour Daniel Chambon.
Bonjour.
Alors Daniel, je suis content, on s'est rencontré une première fois à la librairie d'Avalon. Ah oui. Et j'ai commencé à le lire, le livre qui est un livre souvenir, un livre d'émotion d'un petit-fils sur son grand-père, mais un grand-père juif qui vient de Russie. Alors, Daniel Chambon, d'abord, est-ce que je peux vous demander de vous présenter aux auditrices et auditeurs de Radion ?
Oh ben c'est très simple. Hein. J'ai effectivement écrit un livre sur mon grand-père parce que ça m'intéressait personnellement et je voulais un petit peu honorer sa mémoire. Me présenter, c'est simple. Voilà, j'habite le Morvan. J'ai eu une vie professionnelle en région parisienne, comme indiqué sur la quatrième de couverture. Artisan travaillant les métaux. Et puis, j'ai écrit ça sur le tard. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire d'intéressant. Ce grand-père, je ne l'ai pas connu puisque je suis né 13 ans après sa naissance. Hein. Mais j'en ai toujours entendu parler, bien entendu. Et j'en ai entendu aussi parler à mot couvert. Et c'est ce qui m'a un petit peu motivé parce que il était effectivement juif, il était né en Russie tsariste, dans la zone de résidence où les juifs étaient confinés, bien, il est venu en France pour échapper au pogrom, il s'est marié, un premier mariage, sa femme est morte, ensuite il a épousé la femme qui devait devenir ma grand-mère, et pour être français, plus vite, et de cœur aussi, il s'est engagé dans la Légion étrangère pendant la guerre de 14. Bien. Et à partir de là, les histoires divergent.
Alors là, c'est intéressant, parce que là, il y a des secrets de famille. A-t-il vraiment été combattant ?
Je ne sais pas si je dois dévoiler quand même l'énigme du livre.
Alors on ne dit pas. Alors on ne dit rien.
Pas, on ne le dit pas, mais le lecteur qui, sans être trop curieux, voudra quand même savoir le fin mot de l'histoire, je crois qu'il comprendra très rapidement qu'il n'a pas été combattant. Il n'a pas été combattant, il était réformé à la fin de ses classes, mais il a fait ça. Ensuite, il a été naturalisé français. Et quand il est mort, ma mère avait 11 ans, il y avait encore deux gosses derrière. Et ma grand-mère a voulu que ses enfants aient une image positive de leur père, qu'ils n'avaient vu que malade. Alors, je crois que là, il y a des petites différences de perception. Par exemple, sur sa tombe, il est écrit « engagé volontaire dans l'armée française ». Mais engagé volontaire, ça ne veut pas dire ancien combattant, ça ne veut pas dire non plus victime de guerre. N'empêche que les anciens combattants viennent tous les ans baisser le drapeau, jouer un coup de clairon, mettre un bouquet de violettes sur sa tombe, toujours maintenant. Alors, est-ce que c'est la conséquence de ce qu'a raconté ma grand-mère qui... Moi, j'ai toujours entendu dire que mon grand-père avait été blessé pendant la guerre et qu'il était mort des suites de ses blessures. Et puis un jour, j'ai compris que c'était faux. Et j'ai quand même voulu réhabiliter cet homme parce que il était très très humble. C'était pas un héros. Il a fait ce qu'il a pu. Et moi, j'aime bien les gens qui font ce qu'ils peuvent. C'est pas si mal.
Nous en sommes tous là, on essaie de faire ce que l'on peut.
Voilà. C'est déjà pas mal, vous avez raison,
pas mal.
Daniel Chambon.
Et c'est pas mal, et c'est pas mal. Donc, il y a un proverbe juif qui dit à peu près « Le petit-fils se souvient de ce que le fils veut oublier ». Eh bien, j'ai tenu à l'honorer de cette façon-là.
Monsieur Léon, juif russe 1882-1928, c'est sous la plume de Daniel Chambon, voilà, que vous venez d'entendre à l'instant à notre micro. Et c'est aux éditions de Paris, Max Chalel. Je pense qu'on aura l'occasion de faire une émission plus longue. Vous savez que nous croulons sous les livres dans Wagon.
C'est aux éditions de Paris, effectivement. C'est dans le circuit normal et c'est en vente dans toutes les bonnes librairies.
Et il y en a.
Et il y en a.
Et il y en a. Merci Daniel Chambon. Alors cette fois-ci, Didier Bétron de Saudre. Bonsoir Didier Bétron de Saudre.
Oui, bonsoir, bonjour.
Puis-je vous demander de vous présenter un peu ?
Eh bien, je suis né en région parisienne, mais avec des origines un petit peu diverses, puisque du côté de mon père, c'est assez simple. Le berceau de la famille, c'est le Cher. Quoique si on creuse un peu, ma grand-mère paternelle avait des origines du Midi et mon grand-père paternel des origines du Nord. Mais alors c'est du côté de ma mère que ça se complique puisque c'est la Lituanie, l'Allemagne, l'Alsace aussi, j'oublie quand même.
N'oublions
pas l'Alsace. Voilà, donc c'est, tout ça, ça donne, ça donne moi, mais le moule est cassé.
Vous êtes l'auteur d'un roman disponible aux éditions Célestes. Thélès, je prie de m'excuser, Thélès, et qui a pour titre, lui, le roman de sa vie. Et là encore, on est dans les secrets de famille.
Oui, absolument, puisque c'est, moi, ce que j'appelle un roman historico-romanesque, puisque tout le contexte est exact. C'est l'histoire d'une dame qui, au crépuscule de sa vie, va pour la première fois se livrer à ses petits-neveux, des petits-enfants qui ont entre 5 et 8 ans à peu près, qui lui posent des questions, comme tous les enfants, face à cette dame très âgée. Et puis, elle raconte l'amour de sa vie, elle raconte cet amour qui a duré très peu de temps avec quelqu'un de très connu, mais je ne vous dis pas qui, et qui a occupé sa tête, son cœur, comme on dit, jusqu'à la fin de ses jours. Elle s'est jamais mariée, elle a vécu dans cet amour, et elle n'en avait jamais parlé à personne.
Et c'est lui le roman de sa vie.
Absolument.
Sous la plume de Didier Bétron de Saulx, c'est aux éditions Thélès. Et alors, il y a un autre ouvrage sur votre stand, c'est
oui.
« C'est quoi le bonheur ?»
Voilà.
Alors, voilà une question.
C'est une question gravissime. Mais je ne prétends pas donner la réponse dans le livre.
Alors, c'est quoi le bonheur ?
En réalité, c'est la question que se pose le héros de ce roman. Parce que là, c'est purement romanesque. C'est un jeune homme qui, enfin, il a 35 ans, un petit peu passé, et il a une vie très, très réglée, presque morne, entre son travail en région parisienne et ses week-ends en province, avec sa vieille nourrice qui l'a élevé, parce qu'il est orphelin depuis l'âge de 11 ans. Et heureux, il a quelques aventures, mais vraiment son lendemain est très rapide. Puis un jour, un week-end, il croise une demoiselle qu'il ne connaît pas, alors qu'il connaît tous les gens du pays et des petits villages alentours. Et sa vie bascule à cause de ça. Et il va se poser plein de questions. Justement, il va se demander, c'est quoi le bonheur ?
Didier Bétron de Saudre, à l'instant au micro de Wagon Livre. Et c'est avec lui que se referme le compte-rendu de la 3e fête du livre de Saint-Florentin qui s'est tenue le 7 juin dernier. Je remercie les organisateurs de cette belle et conviviale manifestation, ainsi que le président des après-midi de Saint-Flo, Philippe Lebouc, et son épouse Sophie. Vous retrouverez en podcast d'ici quelques jours cette émission sur le site internet de votre radio locale www.radion.fr. Je vous rappelle que les rendez-vous du lire et de l'écrire se tiendront à Vézelay les 5, 6 et 7 septembre prochains. Tout le programme détaillé à partir d'un moteur de recherche, vous tapez les rendez-vous du lire et de l'écrire. Vous aurez le programme du vendredi 5 septembre, samedi 6, dimanche 7 septembre. Le dimanche 7 septembre, cette fois-ci, c'est en Nièvre voisine. C'est à Saint-André en Morvan, à 15 km au sud d'Avallon. Se tient le salon du livre de ce charmant village que le peintre Corot a peint, et qui aura pour invité d'honneur le journaliste et homme de radio Guy Carlier, ainsi que le photographe saône-et-loirien Laurent Janin. Et puis le 12 septembre, on vous donne rendez-vous à la librairie L'Autre Monde à Avallon, 42 Grande Rue, à partir de 18h30, pour l'enregistrement d'un numéro de Wagon Livre dans le cadre des apéros de L'Autre Monde. Nous serons en compagnie de Daniel Chambon, que vous avez entendu ce soir, pour Monsieur Léon Juif Russe, 1882-1928. C'est au 42 Grande Rue à Avallon, vendredi 12 septembre à 18h30. L'entrée est gratuite, bien évidemment. Mercredi prochain, à 21h, un nouveau numéro de Wagon Livre. Cette fois-ci, nous vous proposerons des reportages enregistrés lors de Bains de Livres à Saint-Aux, le salon du livre de la belle cité thermale de Saint-Honoré-les-Bains, dans la Nièvre du Sud. Au programme, des interviews de Agnès Martin-Lugan, l'auteur, vous savez, de ce roman qui a pour titre « Les gens heureux lisent et boivent du café », un roman vendu à plus de 150 000 exemplaires et qui fera l'objet d'une adaptation cinéma en 2015 ou en 2016. Vous entendrez aussi Philippe Villain pour « Pas son genre », un roman qui d'ailleurs a été, il y a quelques mois, adapté sur les écrans par Lucas Bellevaux avec Émilie Dequesne et Loïc Corbery. Nous donnerons aussi la parole aux auteurs de nouveautés parues aux éditions de l'Armançon, notamment Christine Bonnard pour son polar Le Corbeau de Cortevaux, Marcel Moutet pour un très bel album richement illustré et consacré à la fête des fleurs de Saint-Honoré-les-Bains. Nous avons aussi tendu à Saint-Honoré-les-Bains notre micro à un juge d'instruction, Thierry Soulard, auteur d'un recueil de nouvelles aux éditions Raison et Passion. Recueil de nouvelles qui a pour titre « Le juge et le papillon ». Rendez-vous donc mercredi prochain, mercredi 3 septembre à 21h sur Radion 90.5 de Sens jusqu'à Avallon, donc sur tout le département du 89, ou alors aux quatre coins de la Bourgogne, de France et du monde sur le www.radion.fr. Excellente fin de soirée en musique sur votre radio locale. Merci de votre fidélité. Au revoir. We'll be right back.